Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone de l'été, complément de la librairie francophone estivale, diffusée le samedi à 9h. Reportages, livres de poche pour l'été, souvenirs de l'émission, grand entretien et séquences créoles sont au programme de cette édition. Aujourd'hui, nous irons dans la maison d'Haïti au Québec pour une rencontre exclusive entre Dany Laferrière et Régine Chassagne du groupe Arcade Fire. Vous entendrez Jane Birkin pour un livre de poche à lire pendant vos vacances. Michel Galabru sera dans notre séquence souvenir et nous irons dans le monde du petit Nicolas avec Anne Goscinny. Chaque semaine en soutien aux librairies indépendantes, nous serons aussi en ligne avec un libraire français pour son coup de cœur estival et une anecdote de libraire. Aujourd'hui, nous irons en Lorraine, mais avant, on part au Québec avec deux stars internationales.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous sommes donc à la Maison d'Haïti de Montréal pour une rencontre exceptionnelle entre l'écrivain académicien haïtien Dany Laferrière et l'artiste Régine Chassagne du groupe Arcade Fire, groupe star mondial originaire de Montréal. Régine, vous êtes née au Québec, mais vous avez des origines haïtiennes.
Oui, c'est vrai. Ouais, mes parents sont d'Haïti, sont nés en Haïti, oui.
Et alors avec Arcade Fire, vous vous êtes inspiré d'ailleurs de la musique de rue, des rythmes créoles depuis le premier album?
Oui, ben ça a toujours été, ça fait partie de la musique avec laquelle j'ai grandi, directement ou indirectement. En tant que musicienne, bon ben on revient toujours à ses racines. Alors c'est comme ça que ça ressort toujours à travers ma musique d'une façon ou d'une autre.
Alors les racines d'Dany Laferrière, on les trouve ici. On est dans un lieu emblématique, la Maison d'Haïti. C'est un lieu de vie, un lieu de culture que vous soutenez fortement.
Ah mais tout à fait, ça fait partie de ma vie. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu parler de la Maison d'Haïti. Il y avait le bureau de la communauté chrétienne aussi. Je les appelais mon père et ma mère. La Maison d'Haïti était ma mère. Et c'est la mère aussi de toute la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, la communauté haïtienne, de par son ancienneté, a trouvé une place assez puissante pour accueillir les autres communautés.
Alors Régine, il y a un livre qui a changé votre vie dans la librairie francophone. Nous parlons des livres, donc ça tombe très bien. C'est le livre de l'Américain Paul Farmer, Soulever les montagnes, que vous avez contribué d'ailleurs à faire traduire. Vous en avez signé la préface, il est paru chez Boréal. Qu'est-ce qu'il a révélé en vous, ce livre?
Ben, j'ai lu ce livre et ça a allumé une étincelle en moi pour vraiment faire quelque chose dans la même veine. Paul Farmer est quelqu'un de vraiment particulier, dans le sens j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est aussi... savant, il vient de Harvard, il a des prix incroyables, mais il va marcher 8 heures pour aller rencontrer un patient et lui donner ses médicaments. Et il a décidé d'aller en Haïti. Et c'est un des premiers ou un des seuls au début où qui a vraiment s'est battu avec les gouvernements américains et l'Organisation mondiale de la santé, tout ça pour aider à amener des médicaments à meilleur prix aux gens.
Voilà, Dany Laferrière, un livre qui change la vie, ça vous connaissez ça par cœur. Et vous posez cette question, le lecteur est-il plus délicat que l'amateur de musique rock?
Ah, je sais pas.
Vous vous souvenez ou pas?
J'ai oublié dans quel sens. Ce qui est sûr, c'est que...
Vous dites que la lecture, voilà, on est posé quand on lit intérieurement, etc., dans sa tête, et finalement, on est silencieux dans la lecture. L'amateur de musique rock, Régine peut le confirmer, il n'est pas du tout silencieux.
C'est vrai, c'est vrai. Et il fait du bruit et les voisins peuvent se fâcher. Mais ils ont fait des appareils où l'on peut écouter tout seul. Oui. C'est vrai que l'attitude physique du lecteur est quelque chose d'absolument fort en termes de silence. Parce qu'il lui est interdit de parler quand il lit. Et pour moi, c'est ça un livre. Un livre, c'est un producteur de silence. Et à chaque fois que je m'imagine que toute la planète et beaucoup de gens, des millions de gens sont en train d'écrire, c'est-à-dire de faire du silence pour écrire, et de lire, c'est-à-dire de faire du silence pour lire, j'ai toujours l'impression que si on n'avait pas cette poche de silence, le monde pourrait exploser. Et je trouve ça, oui, élégant comme forme d'être.
Il y a une chanson rock mais délicate parue sur l'album Funeral du groupe Arcade Fire, c'est Haïti.
Dans les années 60 sous le régime de Papa Doc, sous des conditions très dramatiques. Mon grand-père, je n'ai jamais connu, s'est fait enlever. On est allé à Fort Dimanche, on ne l'a plus revu. Et ma mère est revenue une fois du marché. Toutes ses cousines avaient été assassinées. Ben, les vêpres jérémiennes, je pense, sont assez documentées. Il y a toute une partie de la famille qui n'existait pas. Je me suis toujours demandé qui seraient mes cousines si tous ces gens-là n'étaient pas morts, et peut-être qu'on aurait des enfants qui iraient jouer ensemble. C'est comme quand si quelqu'un meurt, c'est pas juste une personne qui meurt, c'est toutes les personnes potentielles qui...
On ne tue pas qu'une seule personne, ouais, c'est ce que vous dites.
Ouais. Ouais.
Vous dites les réveillons de Noël auraient été différents d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Alors Denis Laferrière, vous avez fui la dictature de Duvalier, vous étiez sur la liste noire, l'un de vos amis très proches est mort comme ça. C'est douloureux de revenir, c'est l'énigme du retour, ça, comme vous l'avez écrit.
Ah ben, je pense que l'énigme du retour est la même pour tout le monde. Et chaque fois qu'on retourne dans un lieu qu'on a quitté il y a très longtemps, on retourne avec des rêves et on pense que les choses étaient restées immobiles et qu'elles nous attendaient pour se réanimer. Quelle que soit la situation, même dans un espace chaotique comme celui d'Haïti après le tremblement de terre, l'être humain est une machine à produire de la nostalgie. Et c'est pourquoi d'ailleurs que j'avais dit à la fin de ce passage dans ce livre que tout le monde connaît l'exil. Si ce n'est pas un exil géographique et politique, ce sera l'exil du temps. C'est-à-dire, on est tous en exil de son enfance, de son adolescence, et ça ne revient pas.
Dans cette maison d'Haïti, il y a des masques du carnaval. Et vous êtes allé, vous, là-bas. Ça vous a inspiré pour Réflector, d'ailleurs, ce carnaval. Vous l'expliquez.
Oui, beaucoup. J'étais allée en Haïti plusieurs fois, mais c'était la première fois où j'allais en Haïti, juste pour aller en Haïti. Pas à la recherche de quoi que ce soit, pas... Et je suis allée au carnaval de Jacques Mel. Ah, c'était tellement formidable.
Merci beaucoup, Dani Laferrière.
Merci.
Merci infiniment. Merci, Régine Chassagne.
Merci, tout le monde.
C'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci pour cette rencontre. Vous avez joué le jeu, c'est exclusif, inédit. Merci infiniment et merci à la maison d'Haïti qui nous a accueillis ici à Montréal. On quitte le Canada et on reprend la route. Si vous êtes en voiture avec vos enfants ou quelque part en vacances, restez sur France Inter. Voici un sujet fédérateur qui va parler à toute la famille.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On parle des livres et de la lecture pour les enfants avec PEF et Anne Goscinny. PEF, vous venez de publier chez Folio un poche à 2 €, 2 $, 2 francs suisses. Petit éloge de la lecture, 140 pages inédites sur le plaisir de lire. Sort aussi un nouveau mot tordu, les tables de la fontaine chez Folio Cadet. Ouais. Anne Goscinny, vous éditez un coffret événement, l'intégrale du petit Nicolas que j'ai là, qui a un pavé vraiment avec 7 volumes, signé évidemment de votre père René Goscinny, illustré par Jean-Jacques Sampé. Qu'est-ce qui vous a donné un jour le goût de la lecture, vous, Anne ?
Écoutez, peut-être l'interdiction.
Oui,
parce que chez moi, il y avait toutes les bandes dessinées de mon père, mais il avait ce qu'on appelle les justificatifs, c'est-à-dire les premières éditions qui arrivaient à la maison. Et mon père, né en 26, qui était tout sauf un papa copain, estimait que les enfants, ça gribouillait, ça déchirait, ça faisait des dégâts. Mmh. Donc, tous les livres m'étaient accessibles à la maison, sauf les livres pour enfants, c'est-à-dire ceux qu'il écrivait,
ah oui.
les bandes dessinées. En gros, je pouvais, je pouvais lire Histoire d'eau à 6 ans, mais je ne pouvais pas lire Astérix.
Pef, vous racontez dans Petit éloge de la lecture votre fascination adolescent devant la vitrine de la librairie de votre ville.
Ouais.
Vous découvrez le livre de poche.
Ouais, parce que dans la bibliothèque de mon papa, qui était metteur en scène, il n'y avait que du théâtre. Et à 11 ans, j'avais lu tout Racine, tout Corneille. La musique des Alexandrins m'envoyait en l'air, quoi. Hein, que le jour recommence ou que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Et un jour, en sortant du magasin d'optique où j'avais eu mes premières lunettes, là, c'était une librairie à côté. Et les livres étaient avant très austères, il fallait les couper avec un coupe-papier. C'était beau, ça sentait bien, le papier est frais. Mais là, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Des livres dont le prix correspondait à l'argent de poche que je recevais
chaque semaine.
Mmh. Et avec des cadors, des surtout des couvertures qui ressemblaient à des affiches de cinéma. Ouais.
Comme Vol de nuit, par exemple.
Oui, Vol de nuit, La peste, ouais. Caput. Voilà.
Que vous achetez d'ailleurs.
Oui, oui, que j'achète et je les ai encore. Je les ai encore.
Le petit Nicolas, Anne Goscinny, c'est aussi ça, la lecture partagée entre les générations, ce que fait aussi le livre de poche aujourd'hui. Le goût de la lecture, pour beaucoup d'entre nous, vient en partie de l'œuvre de votre père. Il y a beaucoup contribué, effectivement, Astérix, le petit Nicolas, ça nous a aidé à aimer la lecture, ça.
Oui, moi, les plus beaux témoignages que je peux entendre sur l'œuvre de mon père et sur sa mémoire, c'est il m'a donné envie de lire, il m'a donné envie de lire mieux, de lire plus.
Ouais, ouais.
Je lui dois mes premiers sourires de lecture. Ça, c'est formidable d'être la fille de cet homme-là.
Bref, en 1980, vous lancez La Famille Motordu. Vous avez publié depuis plus de 150 livres, je crois.
Ouais.
La belle histoire du prince Motordu.
Ouais.
On en avait parlé au Québec ensemble, je me souviens, au Salon du Livre de Montréal. C'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.
Mm.
Vous parcourez le monde francophone, vous êtes consulté par des instituteurs, par des orthophonistes, et vous dites qu'il faut que les gosses se sentent concernés par l'histoire.
Ouais.
C'est ça, la recette,
pour
donner le goût de la lecture.
C'est ça. Et mes premiers lecteurs, ils ont entre 35 et 40 ans. Ça devient affreux dans les dédicaces, parce que je vois arriver des gens avec un sourire jusqu'aux oreilles, et ils sont accompagnés d'enfants avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est comme, c'est des clones, des adultes, et ils sont tous motordus. Voilà, ça me plaît. C'est très déchirant par moi, parce que c'est une horloge qui s'affiche. Et c'est pour ça que j'ai voulu, comme mes premiers lecteurs, je veux pas leur lâcher la main. Ils ont le droit de lire mes paroles d'adulte. Je veux pas les quitter, et c'est pour ça que j'ai fait ce petit éloge de la lecture chez Gallimard pour assurer la passerelle.
Ah oui, ah oui.
Parce que les enfants, ils ont besoin de livres comme on a besoin de pain. On alimente les enfants. Mais il arrive un âge où les enfants, ils ont toujours besoin de pain, mais c'est à qui ? Mais la lecture, qui s'en occupe ? Ils n'ont plus les prescripteurs, ils n'ont plus les parents, ils n'ont plus les instituts, tout ça. Et donc, ils ont ma main tendue vers d'autres découvertes.
Voilà, le goût de l'écriture, Anne Goscinny, vous l'avez en face de vous, vous l'avez eu toute votre enfance avec votre père, René Goscinny, qui, effectivement, lui aussi, avec ce côté contemporain, non démagogique, comme dit Pef, vous avez écrit en préface des histoires inédites du petit Nicolas, autre livre paru chez IMAV en 2004, si mes souvenirs sont bons. La force de cette œuvre est de séduire les enfants comme les adultes. Les premiers se retrouvent, les seconds se souviennent.
Ah oui, ça c'était bien trouvé, dis donc.
Ouais. C'est pas mal. Le souvenir, Pef. On a besoin du souvenir. Vous pensez que les souvenirs des lectures de notre enfance génèrent les lecteurs que nous sommes adultes ?
C'est vrai que lorsque j'ai saisi ces livres de poche, les premiers comme ça, et je les ai gardés, et récemment j'ai trouvé dans mes toilettes, ils sont devant moi, mes premiers livres de poche. Alors je suis obligé de leur faire un petit signe de tête sur le côté pour lire le titre, cette espèce de petit salut. Et un jour j'en ai ouvert un, et il y avait un petit insecte. Et j'ai pris un stylo-bille, j'ai suivi l'insecte. Je l'avais pas ouvert depuis 10-15 ans, mais il y avait un tout petit insecte. Et mon stylo-bille est allé parmi toutes les parutions qui avaient lieu en 54. Ça allait d'Herman Menville. Et puis il y a des gens que j'ai pas lus, mais ils faisaient partie de mon bagage. Mais il suffit pas d'un nom pour dire oui.
Justement, Anne Goscinny, pensez-vous que le livre et la lecture dépendent de la catégorie sociale, des moyens que l'on a? On a souvent dit que le petit Nicolas s'adressait plutôt à des familles, sinon aisées, au moins de situations confortables.
Écoutez, franchement, j'ai jamais vu le petit Nicolas comme ça. Mes enfants, qui ont aujourd'hui presque 13 et presque 15 ans, étaient il n'y a pas si longtemps à l'école primaire, publique, laïque et républicaine. Et dans cette école-là, ce que je reconnais du petit Nicolas, ce qui n'a rien de social, c'est qu'effectivement, il y avait un Agnan, il y avait donc un chouchou, il y avait un Clotaire, il y avait un nul. C'était pas mes enfants. Il y avait un obsédé des bonbons. Ça, c'était peut-être un peu plus mon Simon. Mon père s'est pas adressé à une catégorie sociale.
Non, ça c'est sûr que non, mais chaque livre trouve son public.
Oui, ouais. Mais je pense que le petit Nicolas a trouvé ses publics.
Ouais. Pef.
Je suis fils d'enseignant et je parcours toutes les écoles du monde possible, imaginable, Nouvelle-Calédonie, Liban. Ouais. Et c'est vrai que je rencontre des cas terribles. Il y a quelques années, une petite fille m'a abordé à la récréation. Elle m'a dit, c'est bien beau tes mots tordus, mais quand est-ce que tu parleras des coups de ceinture que je reçois à la maison? Il en faut du courage à cette petite fille, quoi. Sinon, ils vont bien. Ils vont bien tous, ils rient pareil, ils pleurent pareil, ils sont encore dans la liberté de l'invention des mots, mais ils n'ont pas tous la même enfance.
Oui.
Voilà, on va terminer, c'est trop court, dites donc, c'est vraiment trop court ce genre d'entretien. On va terminer avec le désir de lire qui existe chez tous les enfants. Il faut juste leur donner un livre et vous apercevez tout de suite qu'ils sont fascinés par les livres. C'est le premier objet en fait d'adultes qu'ils peuvent posséder.
Et c'est un objet qui reste.
Ah oui, c'est un objet qui reste. Merci Pef, merci infiniment, j'étais ravi de vous retrouver. Merci Anne Goscinny, merci beaucoup. Petit éloge de la lecture, c'est chez Folio pour le prix d'un paquet de biscuits, hein, 2 euros, 2 dollars, 2 francs suisses à peu près. Le coffret de l'intégrale du petit Nicolas, magnifique, pour 50 paquets de biscuits. C'est sublime.
Moi, c'est 2 euros.
C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger.
Moi, il y a 222 histoires.
Ouais, c'est ça, mais bon, on va pas y arriver. Merci.
Oui, mais il y a 134 000 signes, moi.
Et l'intégrale du petit Nicolas est parue chez Imav Édition. À suivre le souvenir de la semaine avec Michel Galabru dans un théâtre. Ce sera après un titre acoustique joué dans le grand studio de la librairie francophone. Voici Gaël Faye sur France Inter.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre. Les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au dup.
Gaugu gatoi, gaugu kaniniya. Wala funwani wapuye, wala goweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Gaugu gatoi, gaugu kaniniya.
Petit pays,
wala funwani wapuye.
Je t'aime, ça j'en suis sûr.
C'était Gaël Faye dans notre studio avec Petit Pays. Et pour notre séquence souvenir, on écoute tout de suite Michel Galabru. Bonjour Michel Galabru.
Bonjour.
Alors nous vous avons demandé de choisir un lieu pour cet entretien et nous sommes donc dans un théâtre, le théâtre de Paris, dans lequel vous répétez La femme du boulanger. Vous venez de publier une autobiographie nommée Je ne sais pas dire non aux éditions Michel Lafond. Et dans ce livre, on voit que vous n'avez jamais quitté le théâtre. Et d'ailleurs, vous dites que dans la vie, tout est théâtre.
Oui, oui, tout est théâtre parce que, imaginez comment nous sommes obligés de jouer constamment. Vous-même, moi et puis tout le monde, vous n'avez pas parlé à votre mère comme vous parlez à votre père. Vous n'avez pas parlé à votre père comme vous avez parlé à votre frère. Vous n'avez pas parlé à un agent de police comme vous avez parlé à un banquier. Chaque seconde, on s'adapte, on n'est pas le même. On est obligé de jouer. De jouer pour répondre, pour rentrer en communication avec un autre jeu. Jouer dans la société, c'est une obligation. De telle sorte que, finalement, on va mourir sans se connaître. Parce que on aura tous joué, on aura tous été à un moment donné artificiel, et on ne connaîtra pas la vraie personne.
Dans ce livre, Michel Galabru, vous faites des confidences à propos des femmes, par exemple. Vous avouez ne pas les avoir complètement cernées et vous vous interrogez sur leur plaisir charnel. Et pour cela, vous citez Diderot qui disait « Nombreuses sont celles qui mourront sans avoir connu l'extrême volupté ». Et je vous passe évidemment la citation de Brassens, un petit peu plus crue.
Oui, bien entendu. Ben oui, parce que il y a des centaines de livres qui sont écrits pour étudier la sexualité de la femme, parce que elle n'est pas aussi claire que celle de l'homme, qui est très beaucoup plus simple. C'est toujours compliqué, mais c'est quand même plus simple. La femme, on ne sait pas, on ne comprend pas. Elle peut dissimuler. Elle joue elle-même. Elles sont heureuses de plaire, de séduire. Si vous voulez plaire, vous êtes jolie, madame. Et de l'autre côté, il ne faut pas trop exagérer, parce que si elle vous sent vaincue, si elle vous sent séduite, vous ne l'intéressez plus.
Michel Galabru, vous êtes aussi très critique envers vous. Votre apparence physique, par exemple, vous a posé des problèmes dans votre vie. En amour, vous étiez un peu comme Cyrano, amoureux en silence. Et vous écrivez « Les acteurs, la plastique ingrate reste derrière. Ils jouent les seconds. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Il faut être beau pour ne pas souffrir. »
Oui, c'est un peu peut-être... Bon, il y a des gens qui sont très beaux qui souffrent aussi. C'est un peu brut de brut, quoi. Non, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, il est certain que la grande injustice est là. Tout à l'heure, nous avons dit que c'est un théâtre. Avec les femmes, je ne sais pas jouer, parce que je perds mes moyens. C'est comme il y a de très bons acteurs qui perdent leurs moyens avec le trac. Ils sont paralysés. Moi, j'étais devant une femme, j'étais paralysé. Peut-être parce que je ressentais trop de choses. C'était trop merveilleux pour moi. C'était trop beau, J'étais très romantique, quoi, malgré... Je n'ai pas la gueule d'un romantique. Je vois tout de suite votre rire.
J'ai rien dit du tout. Non, pas du tout.
Vous foutez de ma gueule tout de suite.
Pas du tout.
Mais c'est pas parce que vous n'avez pas une gueule romantique que vous n'êtes pas romantique.
Exact, déjà.
Ce sont les femmes les plus laides, les moins, qui ont le moins de succès, qui sont les plus romantiques, parce que les pauvres sont elles qui souffrent le plus et puis qui rêvent d'amour impossible.
Pour parler de la rupture, Michel, douloureuse, vous citez Bérénice de Racine, avec cette idée que la personne que l'on perd, on ne la reverra plus jamais. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le plus difficile, accepter la fin.
Voilà. Ce vers de Bérénice m'a toujours fasciné parce que il donne tout à fait la sensation que l'on a quand on est amoureux et qu'il y a rupture. Si vous aimez vraiment une femme, un homme, la rupture est très pénible pour celui qui aime. Celui qui aime est toujours un peu la victime. Il y a toujours dans un couple un dominant et un dominé. Et le dominé, souvent, celui qui aime davantage. Il est vaincu parce qu'il aime plus, parce qu'il n'a pas pu cacher son amour, son admiration.
Dans ce livre, Je ne sais pas dire en non, vous avouez que vous avez joué dans de mauvais films pour manger et que certains de vos choix, d'ailleurs, ont été très discutables. Et depuis, on vous a quand même offert de grands rôles dramatiques, vous en parlez aussi dans ce livre. Mais aujourd'hui encore, certains vous voient comme un acteur potache, un acteur de second plan. Est-ce que ça vous attriste ou vous avez passé le cap maintenant ?
Non, je m'en fous personnellement parce que je sais que je vais disparaître. J'ai un âge qui est maintenant quand même dangereux. Et je sais qu'en définitive, avec clarté, quoi, il faut être clairvoyant, quand je disparaîtrai au bout de quelques temps, c'est comme si je n'avais pas existé. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient très brillants, d'hommes de lettres, d'hommes politiques. Si je vous demande de citer tous les présidents de la République, vous allez être emmerdés parce que vous ne vous souvenez pas. Tous les ministres des Affaires étrangères, vous allez être emmerdés. Des gens qui ont été célèbres, qui inondaient les journaux, ils sont totalement inconnus.
Et vous pensez, vous, qu'on ne se souviendra pas de vous ?
Inconnus, oui. Très rapidement, oui. Très rapidement parce que on fait l'expérience avec d'autres acteurs. Bon, on se souvient de deux ou trois, Rému, Sarah Bernhard.
Fernandel, avec qui vous avez joué.
Fernandel, oui.
De Funès aussi ?
Oui, de Funès, fort curieusement, oui. On croyait que ça serait un petit comédien qui passerait comme ça. Et voilà, vous voyez, tout est paradoxe. Mais combien... Demandez qui est Jules Berry, vous verrez, vous serez étonné, personne ne sait. C'était un très, très grand comédien.
Et vous sentez toujours le poulet d'or de la pellicule, alors ouais. Vous dites toujours que vous êtes au second plan.
Moi, je ne tourne pas beaucoup, contrairement à ce que je pense. Quand j'ai fini Astérix, avec Depardieu et Clavier, le premier, pendant 10 ans, je n'ai pas tourné. Ni télévision, ni cinéma. On peut pas dire que... 10 ans. 10 ans, c'est long. Surtout quand il faut manger. Hein. Heureusement, j'avais le théâtre. Il y a des traces de pas. C'est la marée basse. Puis la marée haute arrive. Et c'est pas là, on ne les reverra plus jamais.
Puisqu'on voilà. Parle de sable et de mer, Michel, on va raconter une anecdote que vous citez dans le livre. Un jour, vous êtes à Saint-Tropez pour des vacances de nouveau nantis, parce que ça marche bien pour vous. Et sur la terrasse de votre hôtel, il y a 4 hommes qui parlent d'un futur film. L'un d'eux dit, pour le rôle principal, je veux 2 Funès. Et pour les autres, vous me mettez des ringards, ça me coûtera moins cher.
Ah oui, oui, oui.
Alors vous sortez de là, vous racontez cet épisode à un ami, et vous dites, ah crois-moi, les pauvres types qui vont tourner dans ce chef-d'œuvre, eh bien je les plains. Et ce chef-d'œuvre, c'est pas les pauvres,
c'est
les gendarmes.
Sur ma femme, pendant qu'on écoutait, j'ouvre ma fenêtre, ils étaient sur la terrasse en bas, vous prenez leur petit déjeuner dans le même hôtel que moi, ils étaient sur la terrasse au soleil, ils étaient très beaux, et ils disent, et j'entends ça, vous me mettez 2 Funès, et puis après, je vous dirai, regarde, je ne peux pas les payer. Et je me retourne vers ma femme, et je dis, ben, celui qui va juste tourner, ben, je le plains, mais c'était moi. Puisque en rentrant à Paris, on me dit, vous tournez demain à Saint-Tropez, voilà.
C'est ça, on vous appelle dès que vous rentrez.
On était très mal payés. J'ai eu 6 000 francs pour mon premier gendarme. Vous voyez. Les gens croient qu'on vous gagne des fortunes. Non, je gagne des fortunes, des très grandes vedettes, ce qu'on appelle les artistes bankable, c'est-à-dire les gens sur qui on compte pour que l'argent rentre.
On va terminer avec le début de votre livre, Michel Galabru. Vous parlez de la naissance. Vous dites que naître est arbitraire. On ne choisit pas quand ni où. Et vous citez Voltaire qui disait « Il faut pleurer les gens à leur naissance, pas à leur mort ». Que pensez-vous de votre naissance désormais, Michel Galabru ?
Ma naissance a été heureuse parce que j'ai eu de la chance. Parce que je suis tombé chez des parents qui étaient très gentils, qui étaient très humains. J'ai eu un très bon père qui s'est sacrifié. J'ai eu une maman adorable, Ah, c'est énorme. J'ai eu cette chance. Je suis tombé chez des gens qui n'étaient pas fortunés, mais on ne manquait de rien. Ils étaient aisés, étaient des bourgeois. Bon, je ne suis pas né très beau, mais...
Ça pas va. Si...
Ça passe.
Bah, largement.
Vous voyez, dans votre œil, là, c'est bizarre, je ne sens pas... Là...
mais pas du tout. Vous avez eu un succès considérable toute votre vie.
Alors, bon, ça a été mitigé. Je ne suis pas... Je suis pas d'une intelligence extraordinaire, je suis pas... Je suis un bon petit bourgeois, comédien, voilà. C'est moyen, mais enfin, c'est pas mal. Eu égard à tous ceux qui sont mal tombés. Il y a des fous, il y a des alcooliques. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Il y en a qui sont cons à la naissance. C'est pas de leur faute. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et vous en avez rencontré des cons?
Des cons par milliers.
Et c'est pas de leur faute.
Non.
Non.
Ils sont cons, ils savent pas. Un con prend un type intelligent pour un con. Vous voyez?
Alors vous êtes intelligent ou vous êtes con?
Il n'y en a pas un qui se prend pour un con. Pour certains, je dois être con.
On va s'en sortir, oui. Oui, pour
mais
certains.
Pour moi, je suis intelligent.
Bah oui.
Parce que tout le monde se prend pour intelligent. Même les cons. Est-ce que je suis un con? J'en sais rien, je ne peux pas le dire. Je crois que non. Avec une fatuité. Et peut-être que je suis con.
Merci beaucoup Michel Gabouille.
Moi aussi.
Merci infiniment. Je ne sais pas dire non est publié aux éditions Michel Lafond, une autobiographie passionnante qui nous glisse dans les coulisses de votre vie et de vos personnages. Merci. Et vous êtes magnifique, vous êtes un
mais
sacré personnage.
Il m'en veut de la pommade tant qu'il peut. Enfin, merci beaucoup.
Mais je le pense en plus.
Eh bien, c'est bien.
À bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Et chaque semaine, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée le dimanche uniquement sur France Inter, on part à la rencontre des libraires en soutien aux librairies indépendantes françaises. Aujourd'hui, cap sur Remy Romont en Lorraine, dans la librairie Lire et Écrire. Bonjour Charlotte Tordy.
Bonjour Emmanuel.
On vous avait entendu pendant le confinement dans la librairie francophone. Comment ça se passe en ce moment chez vous? Ça va beaucoup mieux, je suppose?
Oui, tout est revenu à la normale ou presque.
D'accord. Vous vendez des livres, il y a du monde?
Il y a du monde, oui. J'avais un petit peu peur au début de la reprise et finalement tout se passe très très bien.
Alors quel livre conseillez-vous pour l'été dans votre librairie en ce moment? Quel est le livre que vous avez envie de vendre absolument là?
Alors c'est un choix difficile. J'avais d'abord pensé à la correspondance de Camus et Cazares parce que c'est des lettres d'amour magnifiques qui me bouleversent. Et puis finalement, en fait, pour l'été, j'ai plutôt opté pour le discours de Fabrice Caro parce que je trouve que c'est un livre qui est vraiment drôle. Et au fond, il y a assez peu de livres vraiment drôles. Et là, ça en fait partie. C'est un livre drôle et intelligent. C'est vraiment un très bon moment qu'on passe. On suit le fil de pensée d'Adrien qui doit faire un discours pour le mariage de sa sœur, ouais. Alors que lui-même est en pause avec sa dernière petite amie en date. Donc, il part en digression. Il fait des tentatives d'ébauche de discours farfelus, il part dans des suppositions rocambolesques autour de sa petite amie, c'est vraiment, on passe un moment excellent, j'ai vraiment adoré.
Ça s'appelle Le discours de qui donc?
Fabrice Caro.
D'accord, et c'est chez quel éditeur?
Alors, c'était chez Gallimard et maintenant c'est disponible chez Folio.
En poche, c'est parfait.
Oui.
Bon,
oui.
Parfait. On vous a demandé aussi de réfléchir à une histoire personnelle de libraire, Charlotte. Une anecdote drôle ou émouvante qui vous a marqué?
Oui, alors en fait, je me suis aperçue qu'il y a plein de petites choses qui se passent au fil du temps. On a organisé avec ma collègue un événement autour de Harry Potter.
Ouais.
On avait fait ça comme ça, sans avoir trop d'attentes, pour s'amuser, en organisant un concours de dessin, une chasse au trésor, un espace photo. Et en réalité, les gens sont hyper nombreux à venir. L'événement plaît beaucoup. Il y a des dizaines d'enfants qui sont venus avec des étoiles plein les yeux pour déposer leurs dessins. Les enfants tirent les parents par les bras pour leur montrer la vitrine et leur nommer toutes les créatures magiques de Harry Potter. C'est assez fantastique. Je pensais pas que ça allait avoir un tel impact. Donc je suis ravie de voir que Harry Potter plaît toujours en plus en 2020.
Alors une belle ambiance hein, pour ceux qui détestent Harry Potter, à mon avis.
Ouais.
Le cauchemar des anti-Harry Potter. Mais le rêve aussi des enfants et de ceux qui sont fans, et il y en a beaucoup à travers d'ailleurs toute la francophonie. Merci beaucoup Charlotte Tordy.
Merci à vous, merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes libraire à Remiremont en Lorraine, dans la librairie Lire et Écrire. Vous qui nous écoutez, allez acheter vos livres pendant les vacances, ou même après, ou avant, chez un libraire indépendant, c'est primordial. Merci Charlotte, à bientôt, bel été à vous.
Merci, merci à vous également, merci, au revoir.
Au revoir. Dans un instant, un livre de poche pour votre été, justement avec Jane Birkin. Ce sera après le groupe syrien Toutard. Bon été sur France Inter. C'était Toutard avec Moonlight dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Jane Birkin est avec nous pour son livre Monkey Diaries. Il y a ce singe en peluche sur la couverture, Jane, un singe qui a toute une histoire. C'était votre confident et votre porte-bonheur.
Oui, il était très très vulgaire. Et...
Très vulgaire ?
Mais oui, parce qu'il était gagné par mon oncle dans un tombola, dans un pub.
Ouais.
Il avait une barbe blanche, un chapeau coquet, écossais, des pantalons roses. Il s'est amélioré beaucoup avec l'âge et avec les repaissements que j'ai pu faire avec ma grand-mère et les vêtements qu'on lui a donnés. Donc 20 ans, 30 ans plus tard, il était vraiment très distingué.
Il était fringant après.
Ouais.
Même Serge Gainsbourg avait pris conscience de l'importance de ce singe. Qui vous a même fait rater un avion, car un jour vous l'avez oublié, et Serge vous dit « retourne le chercher, il n'est pas question de prendre cet avion sans Monkey, trop dangereux ».
Ben oui, bien sûr. Et on a même regardé les valises et l'avion qui partait avec une très grande nervosité parce que le singe n'était pas dans leur avion non plus. Et moi, je suis retournée 1h30, 2h de là pour chercher le singe et il était sur une sorte de ceinture électrique qui allait vers un fourneau et je l'ai attrapé à la dernière minute.
Une déchetterie,
oui. Oui, j'avais donné Charlotte à le chauffeur de taxi. Et quand je suis revenue avec le singe et tout ça, la maman de Serge avait dit... En plus, parce qu'elle pensait que c'était un vrai singe, elle n'en revenait pas que toute cette histoire, l'avion, le tout, du coup, on s'est tapé la route pendant une dizaine d'heures pour aller à Cap Camara, oui.
Bon, vous racontez tout dans ce livre, Jane Birkin, vos difficultés à l'école, votre arrivée toute jeune en France, vos premiers rapports amoureux, votre famille bourgeoise, célèbre aussi, hein, votre mère est une grande comédienne. Le premier grand amour, c'est John Barry, grand compositeur, connu pour ses musiques de films, James Bond notamment, pour la série Amicalement Vôtre. Et vous dites même que vous ne pourrez pas aimer un autre homme que lui.
J'ai pensé ça à l'époque, oui.
Vous l'avez repensé avec Serge après?
Mais oui.
À chaque fois, vous dites ça.
Et vous, non?
Question piège, je ne sais pas. Si on peut dire ça tout le temps, à chaque fois.
Mais ce n'est pas tout le temps.
À un moment, on le dit peut-être pour la dernière fois, je crois. Non?
En dit quand?
Bah, que c'est la fille ou l'homme que vous allez aimer le plus au monde. Et quand il ou elle disparaît, ben, c'est jamais pareil, non?
Non, mais je l'ai cru chaque fois. Quand j'avais 17 ans et j'ai marié John Barry, je le trouvais tellement exceptionnel que je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse s'intéresser à moi, qui n'avait aucune culture, qui était là en chanteuse, actrice, dans cette musicale qui était assez nulle. Et lui, il était, vous citez les choses comme James Bond et tout ça, mais en fait, il a eu 6 Oscars, ouais, Out of Africa, ouais. Danse avec les loups,
ah oui, c'est énorme.
Le Poursuite impitoyable avec Brando, enfin, c'est un très très grand musicien. Et il n'avait pas le temps pour moi. J'étais une sorte d'enfant qu'il a épousé. Et
ça vous rend triste, ça? Vous êtes sur le fil de la tristesse tout le temps, dans le désespoir.
J'étais triste qu'il ne pouvait pas raconter sa vie à moi, qu'il ne m'incluait pas dans sa vie. Et quand il revenait, il voulait juste dormir. Il en avait marre de cet enfant qui sanglotait à ses côtés. Et il m'a demandé d'aller dormir dans une autre chambre. J'étais sans doute chiant pour lui, hein, parce que franchement, quand je le lis et je l'imagine lui qui est bien fatigué après une journée de travail, etc., ouais. Mais il était très flirteur aussi, hein. Il est parti avec plein de monde, c'était assez dévastatrice.
Oui, vous le savez ça, avec Nancy Sinatra par exemple.
Je ne sais pas. Mais
non,
enfin,
vous dites, elle mange tous les hommes, donc c'est sûr qu'il va y aller, quoi. Il va flirter avec elle.
On ne pense jamais en fait que c'est vrai. C'était à la fin qu'il était parti à Rome avec quelqu'un et pas seul, que j'ai pris la décision de partir.
De partir, oui. Alors c'est ça, et ça recommence un peu avec Serge. Alors Serge vous sauve d'une certaine façon, parce que vous êtes désespéré, vous vivez une vie différente avec lui, tout est génial. En même temps, parfois c'est violent. Enfin, c'est un peu je t'aime moi non plus, votre histoire d'amour avec Serge, avec John.
Alors, on a passé notre vie dans les boîtes de nuit. Oui. Donc on était forcément bourrés. Et oui, bon. Je ne peux pas lui dire qu'il était le seul qui était bourré, moi aussi. Hein. Et...
Alors vous battez un peu, enfin, y a des choses incroyables. C'est très étonnant. Ouais. Hein. Ouais. C'est dur, c'est violent. Hein.
Bah, je ne sais pas ce que vivent les autres personnes, hein. Franchement.
Bah, il vous frappe quand même.
Et moi, je lui ai foutu le premier tarte.
Oui, une gifle. Oui.
Et une cigarette allumée. Donc franchement.
La BO de votre vie, c'est « Je t'aime, moi non plus », en fait.
Non, mais pas tout le temps. Il était très, très chou aussi. Ça, c'était juste des... Tu sais, quand tu écris ton journal intime, c'est assez injuste parce que tu écris quand tu es malheureuse, quand tu es triste, quand tu veux te plaindre, et tu peux te plaindre à personne. Donc, voilà, c'est les plaintes.
Cette période comme ça, quand vous rencontrez Gainsbourg, tout ce que vous vivez, alors vous dites, hein, une fois de plus, que c'est l'homme que vous allez aimer le plus dans votre vie. Et c'est vrai, finalement, parce que jusqu'au bout, hein, vous êtes côtoyé, vous vous êtes aimé, avec des histoires différentes, puisque vous vous séparez de lui. Mais ça a été le moment le plus difficile pour vous, Jane, de vous séparer de Serge Gainsbourg?
Le plus difficile, c'était sa mort. Oui, c'est, enfin, les séparations sont d'une complication rare que vous connaissez sans doute.
Oui.
Et on voudrait garder la personne qui vous était si chère pendant 13 ans, 14 ans. On veut le garder avec soi. Et c'est vraiment rare que ça puisse se faire. Oui.
Vous auriez adoré vivre avec Jacques Doyon et Serge Gainsbourg.
Mais c'est des idées qu'on se fait.
Ça, c'était le trio idéal pour
c'était
vous.
C'était les idées qu'on se fait assez bêtement. Oui,
et pourquoi assez bêtement? Fallait le faire. Ben non, c'était pas d'accord.
Ben... Ça, j'aurais été pas d'accord, non. Non, c'est les idées qu'on se fait. Quand je lisais ça, je me suis dit, mais mon Dieu, comment j'aurais pu imaginer ça? Mais je l'ai imaginé, donc c'est là.
Ouais. Comment vous les vivez, ces souvenirs de Jane Birkin? Comment vous surmontez comme ça la douleur, finalement, des disparitions de celles et ceux que vous avez tant aimés? Est-ce que ça a été une façon d'exorciser des choses, d'écrire ce livre, de replonger dans les souvenirs?
Oh non, c'était pas ça. J'avais espéré qu'il y avait assez d'anecdotes drôles et touchantes pour que ça vaut le coup. Je m'y attendais pas d'avoir la naissance de Kate et de la revoir avec le trait qu'elle avait dans son œil, que je pensais aller lui porter bonheur et chance toute sa vie. Et ça, c'était vraiment très difficile à traduire et à faire.
C'était Petit Prince avec JSP dans la librairie francophone. On termine cette émission avec le bonus créole, un bonus ultramarin aujourd'hui avec des pirogues polynésiennes.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Voilà, on est à Toulon avec les pirogues polynésiennes et Cyril Taroufo qui est le président du club. Bonjour Cyril.
Yorana.
Comment allez-vous?
Ça va, on est content de t'accueillir ici parmi nous. Hein.
Ben, on est ravis aussi d'être là parce qu'il y a une grosse communauté tahitienne ici à Toulon, dans le sud de la France.
Tout à fait, il y a une grosse communauté. Je suis arrivé en 95 ici, donc la culture polynésienne est bien intégrée à Toulon. Bien sûr, par l'arrivée des Tahitiens, des Polynésiens, via l'armée, la marine et l'armée de terre.
Alors du coup, vous avez monté un club de pirogues, et il y a des pirogues tahitiennes qui naviguent non pas sur les eaux du Pacifique, mais sur la Méditerranée.
Oui, tout à fait, à la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que Toulon est le départ du développement de l'activité polynésienne ici en France.
Bon, on va entrer dans le club. C'est drôle parce qu'il y a les cigales et on est déjà en Polynésie. C'est pas vraiment les mêmes bruits là-bas, mais c'est le mélange des cultures.
C'est ça, tout à fait. Les cigales font partie aussi maintenant de notre patrimoine.
Tahitien. Alors voilà les pirogues qui sont devant nous. Il y a une mise à l'eau, comme on dit. Ici, un petit port qui permet de mettre les bateaux à l'eau. Un club de voile juste à notre droite. Et puis ces pirogues de 5 places, 3 places, 1 place.
Et 6 places.
Et 6 places. Voilà.
C'est les 6 places, c'est l'embarcation phare de l'activité, parce qu'elle permet d'accueillir, bien sûr, les personnes confirmées qui savent bien pratiquer cette activité. Et surtout, ça permet d'accueillir le grand public.
Alors voilà, on en a une là, juste là, qui est magnifique, jaune, verte et bleue, avec Air Tahiti Nui comme pseudo-sponsor.
Tout à fait.
On n'oublie pas les racines.
Voilà.
Et puis 6 places, effectivement.
La particularité, je pense, de cette activité, c'est le flotteur. Donc tout le monde se dit, mais pourquoi il y a ce flotteur-là? Mais ça fait partie de la culture, de son histoire aussi, la pirogue polynésienne. Au départ, la pirogue polynésienne, c'est d'abord une embarcation qui pouvait accueillir des familles, parce que la pirogue polynésienne, son image que nos ancêtres nous ont transmise, c'est d'abord une pirogue double, avec au-dessus de cette pirogue-là, une maisonnette où ils pouvaient accueillir la famille. C'est ça la pirogue polynésienne au départ. Et puis maintenant, mais il y a des pirogues avec balancier, ce qu'on appelle les flotteurs, donc qui sont venus développer justement cette pratique-là qui est la pirogue polynésienne.
Mais alors c'est pour équilibrer le flotteur en fait. Là, ça fait quoi? Ça fait 10 mètres?
Là, ils sont à 13 mètres les
13 mètres
places, ouais.
Ouais, donc du coup, si on n'a pas un flotteur d'un côté ou de l'autre, ça peut pas tenir.
Ça peut pas tenir. Hein. C'est la particularité justement de cette pirogue-là, avoir un flotteur surtout du côté gauche.
Pourquoi du côté gauche?
C'est du côté du cœur.
Ah oui.
Voilà.
Donc, c'est défini comme ça.
C'est défini comme ça, du côté du cœur. Alors maintenant, s'il faut rechercher si nos ancêtres ont pensé à ça, mais nous, on estime que cette histoire-là fait partie justement de cette pratique-là.
Alors qu'est-ce que ça change d'être sur la Méditerranée, Cyril, par rapport au lagon du Pacifique?
Bien sûr, le paysage.
Oui, mais en dehors de ça.
La pratique aussi. Hein. Je pense que la pratique, elle est différente ici. On a une météo qui est capricieuse avec le mistral. Donc, il faut toujours s'adapter aussi à la météo.
Donc, c'est plus dur.
Voilà, c'est plus dur. Donc, on s'adapte. On a su s'adapter. Et puis, on est content parce qu'on a réussi à quand même adhérer l'année dernière à peu près 160 adhérents dans l'association. Quoi. Donc, c'est très bien.
160
adhérents. Hein,
donc, c'est pas mal.
Donc on a encore du travail, parce que voilà, il faut pas tous les clubs sont structurés comme la nôtre. Hein, donc il faut aider les autres clubs aussi à se structurer, les accompagner. Donc ça aussi, ça fait partie aussi de notre mission. Quoi. L'esprit d'équipe, si on n'a pas l'esprit d'équipe, eh bien, la pirogue n'avance pas bien. Elle avance, mais pas bien.
Elle met du temps à avancer. Merci beaucoup, Cyril. Merci.
Ouais, écoute, merci. Hein, merci d'être venu passer, faire un petit coucou. Hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à Toulon. Je suis là, je suis prêt à vous accueillir.
Merci, Cyril.
c'est la fin de cette émission de l'été. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation et la production, Cyril Pascal, avec la contribution de Jean-Philippe Verret. À la technique, Stéphane Boja et Thierry Dupin à la prog musicale. On se retrouve samedi à 9h pour la dernière librairie francophone estivale avec Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, et un plateau spécial rentrée littéraire avec Daniel Picouli, Didier Decoin et Amélie Nothon. Rendez-vous aussi dimanche prochain dans cette librairie francophone de l'été, diffusée uniquement sur Inter. À bientôt et bonne semaine à tous.